en dire et des nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Serait-ce un inventeur de monde que nous recevons aujourd'hui ou serait-ce au contraire un auteur qui nous révèle le présent qui nous pend au nez à la lueur d'un passé pas tout à fait disparu et d'un futur qui a déjà commencé? Sans doute la vérité, si elle existe, est-elle entre les deux. Elle est à découvrir en tout cas entre des cases de bandes dessinées qui sont autant de tableaux. Un récit haletant comme un feuilleton télévisé, traversé de personnages toujours mystérieux, souvent attachants, parfois inquiétants. Une histoire intense, tissée de scènes d'action, de moments d'émotion et de péripéties parfois burlesques, dont on émerge avec des questionnements politiques, géopolitiques, scientifiques, éthiques, plein la tête. Le livre 2 de la saga Bug de notre invité Anki Bilal sort aujourd'hui même chez Casterman et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Anki Bilal.
Bonjour.
Ce livre 2, il commence et se termine par une case qui représente un grand monument parisien, la Tour Eiffel. Sur la dernière planche de l'album, elle apparaît très amochée, pas très assurée sur ses bases, mais encore debout. Si vous aviez choisi Notre-Dame, aujourd'hui, vous seriez considéré comme un prophète.
C'est un événement assez tragique, dramatique et très marquant qu'on vient de vivre. Olivia Gesberg, j'ai vu ce matin dans son émission sur France Culture, c'est votre consoeur, elle me faisait remarquer que dans le deuxième volet de Bug, Notre-Dame est déjà amputée de sa flèche.
Voilà. Alors dans le premier tome, il y a bien la flèche, hein, page 28 du tome 1.
Ouais. Et c'est terrifiant.
Dans le tome 2, on la voit plus.
C'est un oubli.
C'est un oubli.
Oui.
Vous êtes sûr que c'est un oubli?
Je sais pas. Je suis pour rien, en tout cas, pour ce qui est arrivé il y a deux jours.
Oui, on va pas participer aux théories du complot, hein.
Non, surtout pas. Alors effectivement, le Paris, ça reste pour moi un lieu incontournable. C'est un lieu de ma seconde vie, hein. Je l'ai démarré ici. J'arrive d'un pays qui n'existe plus. Paris, c'est la ville qui m'a.
Belgrade,
Yougoslavie. Voilà, la Yougoslavie, c'était le pays dont je parle. Et il fallait effectivement dans ce Bug montrer que peut-être que les villes aussi, les monuments pouvaient souffrir de cette disparition radicale et totale du numérique.
Alors, parce que le monument, c'est un symbole?
Ah bien sûr, le monument est un symbole. L'histoire des hommes est faite de symboles et c'est très souvent l'architecture qui les caractérise. Donc, les grandes dictatures, elles ont toujours édifié et érigé des monuments. Et puis même en allant très très loin, l'Égypte ancienne. Enfin, bon, ça c'est vrai que les hommes laissent leurs traces souvent. Les chefs d'État, hein, d'ailleurs, les nôtres ne s'en privent pas. Donc tout ça fait partie de la grande saga de l'humanité, et les villes sont le lieu principal.
Mais même pour la vie des gens qui habitent dans la ville en question, et puis des gens du monde entier. C'est vrai qu'un bâtiment comme Notre-Dame, comme la Tour Eiffel, même comme l'ancien immeuble de la Samaritaine, près du Pont Neuf, là, que vous dessinez et qu'on voit beaucoup dans l'album parce qu'il y a un avion qui est crashé juste devant, et ben tout de suite, il y a une charge symbolique qui se dégage de vos images, ça pose tout de suite un décor, ça donne des repères au lecteur. Sauf que la date, elle n'est pas tout à fait la même, parce que dans votre histoire, on est en 2041. Anki Bilal, 2041, c'est aujourd'hui ou c'est demain?
C'est les deux. On est en train on a levé la jambe pour franchir le pas et on est quelque part entre les deux. Je souhaitais pas, marquer graphiquement par une inventivité ou par une recherche futurologique, cette période de 2040. Parce que, précisément, je voulais que la plausibilité nous affleure en permanence en lisant, qu'on se dise, ça ressemble à aujourd'hui et ça pourrait être aujourd'hui. Donc, mais pourquoi 2040? Parce que aussi il fallait que une expédition sur Mars soit envisageable et soit possible.
Ah, donc il fallait quand même que ce soit réaliste ou réalisable.
Un minimum de réalisme pour cette raison-là. Je pense pas qu'on aille sur Mars avant 15-20 ans au mieux. Hein, c'est le vœu d'Elon Musk. Lui, il souhaite y aller dans 10 ans.
Mais on en parle de plus en plus et on se dit que technologiquement en 41, ce serait tout à fait envisageable.
Je pense que c'est possible, c'est plausible. Voilà. Mais par contre, effectivement, il ne s'agit pas de dire, regardez, c'est loin, c'est dans 20 ans, voilà, le bug peut nous arriver dans 20 ans. C'est de se dire qu'il peut arriver, même si je pense qu'il ne peut pas arriver sous cette forme-là, ça veut dire que le bug est déjà dans nos consciences comme une espèce de d'épée de Damoclès, et que voilà, ça nous impacte quelque part dans notre mémoire. Et la mémoire est évidemment en filigrane le sujet principal de cette série.
Alors on va y revenir longuement dans un instant, mais restons sur la ville, oui. Enki Bilal, sur le décor de l'histoire, mais la ville est aussi, comme souvent avec vous, un personnage, donc un décor. On va pas dire futuriste, parce que ça correspond pas du tout à ce que vous venez de dire, et pourtant, il y a quand même quelques petits éléments qui nous font dire que l'histoire a progressé, même si ces éléments-là s'appuient sur des germes qui sont peut-être déjà posés aujourd'hui. Par exemple, on parlait de Notre-Dame, dans votre Paris à vous, à côté de Notre-Dame, juste à côté de Notre-Dame, il y a une mosquée, juste derrière le square de l'archevêché. Il y a pas mal de minarets.
Il y en a un autre d'ailleurs. Un peu plus loin. Mais ça, c'est vraiment à géométrie variable. C'est une recherche. Donc, je ne veux pas montrer un futur, mais je montre, par exemple, un futur plausible sur le plan sociétal. Et on peut imaginer parfaitement que d'ici 20 ans, on ait une mosquée, alors peut-être à côté de Notre-Dame. J'ai trouvé que c'était un voisinage plutôt agréable, de belles architectures qui se côtoient et qui apparemment cohabitent en paix. C'est plutôt bien. Je n'entre pas là, évidemment, dans des considérations
pas du tout religieuses. Chaque lecteur pourrait aussi se faire sa propre idée.
Mais c'est exactement ça. C'est un récit qui est volontairement truffé d'ellipses à tous les niveaux.
Vous ouvrez des fenêtres, des portes. Libre à chacun de les emprunter ou pas.
Absolument. Et en même temps, on suit de manière assez classique l'histoire d'un, pour l'instant, dans ces deux volumes, d'un père qui veut retrouver sa fille qui a été enlevée parce que le père est potentiellement détenteur de toute la mémoire du monde. Donc, on a quelque chose de très très réaliste, très très humain, très quotidien presque, avec cette filiation, avec des lieux. Vous l'avez dit, la Samaritaine, qui est le lieu où habite Gemma, cette jeune fille, avec sa mère, avec effectivement la Tour Eiffel. On est dans un Paris que l'on connaît. Donc il y a cette familiarité, et en même temps, il y a un enjeu qui nous dépasse totalement, et il y a Mars. Donc il y a l'infiniment petit et humain, et l'infiniment grand et métaphysique.
Alors, c'est un auteur de bande dessinée que j'ai en face de moi, ou c'est une sorte d'architecte en fait que vous êtes, Enki Bilal?
Déjà, j'espère être l'architecte de mes récits et de mes fantasmes et des projections.
Mais architecte, c'est quelqu'un qui réfléchit au monde dans lequel il est.
Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'ai toujours fait. Tout ce que j'ai fait depuis le début, d'ailleurs, que ce soit avec Pierre Christin ou seul après, est lié à notre monde, à la marche de ce monde, avec toujours ce regard prospectif qui n'omet pas évidemment de leur attachement au passé. Donc c'est voilà, la temporalité est globale.
Voilà, avec les questions sociétales au sens large, les questions politiques, les questions géopolitiques, les questions esthétiques, les questions humaines, les questions de sentiments. En fait, vous êtes un dessinateur et un scénariste de la vie, on peut dire ça comme ça.
Moi, ça me va très bien, oui. Well, it's a strange old game, you learn it slow. One step forward and it's back to go. You're standing on a throttle, you're standing on the brakes. In a groove till you make a mistake. Sometimes you're the windshield, sometimes you're the bug. Sometimes it all comes together, sometimes you're a fool in love. Sometimes you're the Louisville slug.
Dire Straits, The Bug dans VMDN sur RFI avec Enki Bilal qui publie le deuxième livre de la saga Bug, fait Casterman. Bug, on le disait tout à l'heure, hein, parle aussi de technologie, parle à la fois du futur et de l'instant présent, parle de notre dépendance au numérique et aux nouvelles technologies, dont on ne sait plus d'ailleurs très bien si elles sont si nouvelles que cela aujourd'hui. C'est une façon de tirer la sonnette d'alarme, cette aventure-là, Enki Bilal?
C'est d'une manière indirecte, oui, sans doute, mais c'est pas le but. Hein. Je suis pas parti avec cette idée-là. Je suis pas du tout, comme on dit, lanceur d'alerte. C'est certainement pas. Mais en fait, le sujet est tellement vaste, tellement c'est une épée de Damoclès. Alors pas sous cette forme-là, mais c'est quand même une épée de Damoclès. Des bugs, on va en subir des dizaines et des dizaines.
Oui, mais des bugs individuels. Parce que vous vous souvenez du fameux bug de l'an 2000. Alors on en a parlé énormément. Il y a eu énormément de fantasmes qui se sont déroulés là-dessus. Et puis quand on a passé, il n'y a pas eu grand-chose.
Bien sûr. Mais des bugs, il va y en avoir. Des personnels avec son propre téléphone, avec son ordi. Enfin bon, bref. Donc le bug fait partie intégrante de cette mécanique numérique, de ce monde-là. Mais envisager sous cette forme-là de radical où tout disparaît, où tout est asséché, où tout est aspiré finalement. C'est aspiré par quoi? C'est pas Hobb, le personnage principal, qui aspire. C'est le bug qu'il a en lui. Et ça, je pense qu'on commence.
Il a physiquement en lui.
Qu'il a physiquement en lui. C'est un alien qu'il a ramené de Mars, de son expédition martienne. Et donc là, on est face à quelque chose qui ne peut pas arriver. Je posais un peu la question à des spécialistes. Ça ne peut pas arriver sous cette forme-là.
Donc il y a des garde-fous, il y a des garanties.
Il peut y avoir des moments comme, mais la totalité qui disparaisse comme ça, c'est impossible. Ouais, tant mieux, parce que ça m'ouvre le champ de c'est une fable hein, finalement, et ça m'ouvre le champ de toutes les investigations, toutes les pistes.
Oui, parce que là tout disparaît effectivement hein, d'un coup dans votre histoire, et c'est vrai que le premier risque dont le lecteur prend conscience, c'est ce risque de perte de mémoire, quoi, au sens informatique du terme, mais aussi au sens vivant, au sens historique. Cette question de la mémoire, cette question de la transmission, parce qu'on peut pas séparer les deux, elle est vraiment au cœur non seulement de Bug, mais même au cœur de l'ensemble de vos albums. En fait, vous ne parlez quasiment que de ça, finalement. Enki Bilal, pourquoi c'est une question qui vous taraude, qui vous intéresse, qui vous passionne tant?
Écoutez, je sais, j'ai pas de réponse comme ça, mais il y a quelques pistes que je peux ébaucher. Par exemple, je pense que le fait de quitter un pays comme la Yougoslavie, mon pays d'origine, à l'âge de 9 ans, pour, de manière assez brutale, presque traumatisante, pour arriver en France et découvrir une nouvelle culture, une langue sublime. Tout ça, c'est déjà une forme de, en soi, c'est comme un bug, hein, c'est déjà une espèce de rupture, et qui joue sur l'idée de la mémoire. Quitter quelque chose, c'est le fixer, le figer dans son cerveau, essayer de l'emporter quelque part avec ça. Donc la mémoire est déjà là à ce moment-là. Mais ensuite, je développerai ça évidemment dans les récits, aussi bien avec Christin que seul. Et assez souvent, effectivement, j'étais conscient que le sujet était présent. Il est même quasiment obsessionnellement présent. Il est même l'origine du sommet du monstre, qui est un livre sorti, un album sorti en 97, et qui traite de l'éclatement de la Yougoslavie dans une vision prospective, donc décalée dans le temps, où la mémoire est quasiment le fil rouge du récit, et c'est un personnage qui est hypermnésique. Donc depuis le début, on commence par ce personnage qui a 18 jours, se souvient de ce qui lui est arrivé exactement à sa naissance, enfin bon, quelque chose de tout à fait improbable en soi, mais qui va lui permettre de raconter l'éclatement de ce pays et de le déplacer à l'échelle universelle sur la planète. Bon, ça c'était volontaire.
Oui.
Lorsque je fais Bug, lorsque je lance l'idée de Bug, personnellement je me lance le récit, je ne réalise pas que le sujet central est là encore la mémoire. Je ne m'en rends absolument pas compte.
Ah oui,
donc vraiment, vraiment pas.
C'est en cours, oui, de fabrication de l'album.
Ben absolument, je me dis, mais c'est incroyable, ce type, il a hérité de tout, et là je me dis, ben c'est la même chose.
Oui, parce
je
qu'il reviens. Est hypermnésique aussi, finalement, Cameron Hobb.
Mais par la force des choses, pas. Et puis surtout.
Hypermnésique de circonstances.
Surtout, je pars d'un pitch c'est le pitch qui s'est imposé. Sur le sommet du monstre, c'est pas un pitch, hein, c'est plus compliqué, c'est un récit plus profond. Là, je dis pas que c'est pas profond, mais le pitch est brutal, c'est tout d'un coup, plus rien, tout a disparu, et
on fait
bug. Alors bug en français, on sait ce que ça veut dire. Bug en anglais, tiens, c'est un insecte, c'est une bestiole. Et là, je pense tout de suite à Mars, à un type qui revient de Mars avec une bestiole dans le cou.
Voilà.
Et qui est dans son
corps. Les deux définitions dans les deux langues sont d'ailleurs inscrites à la quatrième de couverture de chacun
des albums. Et il recueille tout ce que ce bug a aspiré de ce monde qu'il découvre, voilà, qui est la planète Terre.
Et donc
voilà, là à ce moment-là, il n'est pas question de mémoire. Je me rends pas compte. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, le naturel est revenu au galop, malgré
voilà.
moi.
Et donc, Hobbes concentre effectivement en lui la mémoire du monde, ce qui suscite évidemment beaucoup de convoitises pour des raisons louables ou non, hein, qu'elles soient politiques, économiques, scientifiques, culturelles, affectives ou tout simplement vitales. On dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Tout le monde veut donc mettre la main sur ce personnage, et pour faire pression sur lui, sa fille a été enlevée par des mafieux qui veulent s'en servir comme appât. Ça se passe dans le premier tome. Voici une scène du second tome qui se passe en Corse, hein, du côté de Porto Vecchio. Gemma, donc la fille du héros, est entre les mains d'un groupe de mafieux. Elle est en liaison avec son père qui vole vers elle au-dessus de la Méditerranée. Nous sommes page 31 de ce livre 2.
Allô, Gemma, tu peux y aller. Je suis à une demi-heure de Figari.
Je suis prête. Tout va bien, messieurs. Mon père sera là dans moins de 2 heures. Il vous invite même à boire un verre. Je devrais pouvoir relancer le petit robot barman.
Quel robot? Ce machin-là par terre?
Ce machin-là par terre a répondu à ma réinitialisation. Code donné par papa, of course. Je m'étais assurée que Bonifacio était bien dehors et que tous les autres étaient à l'intérieur. Et j'ai activé la procédure haute sécurité. Le robot s'est relevé, bras tendu, compte à rebours en marche, et moi, je suis sortie. Salut les gars!
Hey, Gemma, qu'est-ce que tu fous?
5, 4, 3, 2, 1.
Les baies vitrées anti-effraction se sont refermées sur moi. À la seconde même, tous les accès de l'hôtel s'auto-verrouillaient. Mon père est un dieu tout-puissant. Ses pouvoirs sont sans limite. Je suis heureuse et fière de le revoir. On y va, Bonifacio.
Piccola, putana, ouvre, la petite salope.
Bonifacio, plus vite.
Du calme, jeune fille, j'ai 97 ans, moi.
Il m'a semblé entendre des coups de feu contre des vitres, mais aussi des hurlements, puis d'autres détonations suivies de cris, de râles, globalement un bruit de boucherie. Bonifacio, excité comme une puce à l'idée de m'emmener en balade, rigolait de toute sa bouche sans dents. Direction plage de Palombadia.
Oh, yahoo! Yahoo!
On arrive. La voiture, là-bas.
Papa! Papa?
N'approche pas, Gemma. Mets cette combinaison, après je te serrerai dans mes bras.
Les retrouvailles très émouvantes entre le père et la fille dans le livre 2 de Bug. Pas mal le yaou, hein, d'un vieillard de 97-98 ans.
Le cowboy corse, oui.
Voilà, le cowboy corse. Yaou, ça n'a rien à voir avec la société informatique. Parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit clin d'œil, mais même pas. Bon, on a bien vu la différence d'atmosphère, là, hein, le côté parfois un peu burlesque, parfois aussi scène d'action qu'il y a dans cet album, et puis la petite scène d'émotion qui arrive après. On parlait d'architecture tout à l'heure. Enki Bilal, un auteur de BD, c'est effectivement un architecte des questions de perspective, de ligne de force, d'avancement, d'atmosphère.
Oui, c'est une histoire, un récit, c'est une architecture, hein, mentale, pour l'écrivain, pour l'auteur en général, et lorsque le dessin entre en ligne de compte, fait partie de l'arsenal narratif, bien il y a en plus effectivement l'architecture au sens technique du terme, savoir la profondeur de champ, les perspectives, etc. Mais en soi, c'est vrai que c'est un terme global qui colle parfaitement à la création. Je pense que c'est à la création d'univers, de monde ou de traitement de thématiques, hein, tout ça, c'est la matière première étant toujours l'humain.
Voilà, alors les personnages, justement, on va dire un petit mot de quelques-uns d'entre eux, pas de tous, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, comme souvent avec vous, ils évoluent énormément au cours de l'histoire, et le plaisir de la lecture, c'est aussi de voir ce qu'ils recèlent réellement en eux. Le personnage de Cameron, est-ce qu'il y a une sorte de cousinage entre lui et Alcide Nicopol, le héros de votre de votre trilogie. Cosmonautes qui sont passés par Mars, tous deux.
Non, Nicopol, lui, il a fait, si je me souviens bien.
Ah bah,
je me souviens quand même très bien.
Mieux quoi, oui.
Non, il a fait de la prison. Il a été, c'est une espèce de pénitencier en orbite autour de la Terre. Donc c'est une peine de prison dans l'espace. Voilà. Il revient accidentellement de cette peine de prison, il se casse une jambe, etc. On connaît l'histoire, enfin, pour ceux qui connaissent. Effectivement, il y a une parenté, parce que Hobbes revient de Mars, Cameron Hobbes revient de Mars, et il y a cette dimension. Moi, j'aime considérer notre planète comme autre chose qu'un simple... réceptacle pour nos vies. J'aime bien l'inscrire dans une cosmologie, avoir présent à l'esprit qu'on fait partie d'un système, qu'on a un soleil qui nous fait vivre, et qu'on est assujetti à une logique qui nous dépasse. L'espace, les sciences, Hubble m'a toujours fasciné. Je me tiens au courant de ce que l'on découvre, et lorsque on me propose une photo du premier trou noir, je suis ravi. Donc ça nous, là aussi, ça finit par définitivement détruire le genre science-fiction, puisque là on a une image venue de très très loin, de quelque chose qui est inenvisageable pour les sens humains.
Oui, ça vous plaît au fond, hein,
voilà,
quand petit à petit la science-fiction recule pour se rapprocher de notre réalité.
Bah c'est bien sûr, on est dedans, on est partie intégrante de ça. Et donc voilà, c'est une façon de prendre conscience aussi de la fragilité de la planète Terre. C'est rien du tout. On parle d'un trou noir, c'est la Terre, c'est une tête d'épingle dans l'océan Pacifique par rapport à tout ça. Donc c'est ça me paraît important pour envisager simplement même une histoire quotidienne, une histoire d'amour ou une histoire ou un polar simplement. Donc tous ces personnages qui ont des effectivement on y voit du burlesque, on y voit de la vie fusionnelle, on y voit de l'amour, on y voit des choses qui sont parfaitement humaines, et heureusement qu'elles sont là, elles font partie d'un tout.
Voilà. Et puis on y voit aussi une tache bleue. Alors il y avait déjà, donc dans Nicopol, il y avait Gilles Bioscope, hein, qui avait déjà un petit peu de bleu sur le visage.
Gilles Bioscope,
dans les cheveux bleus, voilà.
Voilà. Naturellement bleu.
Naturellement bleu. Le bleu, on la trouve aussi sur l'affiche du Printemps des Poètes que vous avez signé cette année. Enki Bilal, il y a un petit lien quand même avec Bug.
Oui. Voilà. Ça sort de la même palette.
Voilà, on peut la voir d'ailleurs en ce moment en Gare de Lyon, hein, puisque il y a toute une exposition Bilal autour des travaux. Il y a les cheveux bleus aussi dans Taïko Moon, hein, sur le personnage de...
Non, là, c'est une tâche aussi.
C'est une tâche, oui, voilà.
C'est sur Piccoli.
Sur Piccoli.
L'acteur principal, l'un des acteurs principaux du film, où il interprète un dictateur.
Pourquoi le
installé
bleu
sur la Lune? Alors le bleu,
pourquoi
justement...
Le bleu
parce que,
et c'est pas n'importe quel bleu, d'ailleurs. À chaque fois, c'est le même bleu.
Oui, c'est plus ou moins le même bleu, oui. Après l'impression, ça peut changer, ça peut parce que c'est très délicat évidemment là, les nuances. Mais ce bleu justement, c'est si j'utilise le bleu, c'est pour lui faire dire des choses très différentes. Dans Taïko Moon, le film Piccoli, cette tâche, c'est une malédiction, c'est une maladie, c'est maléfique, c'est malfaisant, c'est quelque chose en soi de répugnant. La tâche bleue de Hobbes dans Bug, c'est inquiétant. Et ça deviendra presque apaisant.
Ah.
Voilà. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de se faire dire, le rouge c'est pas toujours la couleur du sang, or c'est la couleur du sang.
Et pourquoi vous avez choisi le bleu et ce
parce
bleu-là?
Parce que c'est pour moi une couleur universelle. Et je vous parlais tout à l'heure de l'espace, je vous parlais de la planète. Pour moi, on est entouré de bleu, même s'il n'y a pas de couleur autour de nous. Mais c'est l'atmosphère qui teinte ça et qui donne l'impression. Et c'est, effectivement, on ressent le bleu, mais c'est une couleur qui est à la fois apaisante et qui peut aussi être inquiétante et malsaine. Donc c'est cette variété qui m'intéresse.
Human par le groupe d'électrométal slovène Neurotech dans VMDN sur RFI. Le transhumanisme, c'est une chance ou c'est un énorme risque, Anne Kividal?
Les deux. Je ne me mouille pas, mais il est difficile de refuser le concept de l'amélioration de la vie, alors de l'humain. Donc, tout le problème va être dans le dosage, dans la manière de le faire. Parce que il y a un autre terme pour désigner le transhumanisme, c'est l'homme augmenté. Enfin, c'est un peu la même chose. Donc, augmenté, ça veut clairement dire qu'on apporte, on rajoute quelque chose.
De mieux ou de moins bien?
En principe, c'est de mieux.
Normalement.
Normalement, c'est ça. Mais les accidents, les dégâts collatéraux, ça existe. Et je vais citer souvent Paul Virilio et sa fameuse phrase, je veux dire, qui est d'une grande limpidité et qui est d'une grande force. Je veux dire, chaque nouvelle invention est l'invention également de la catastrophe qui va avec. Et ça, c'est malheureusement, c'est depuis que l'homme invente, on peut se rendre compte que c'est une vérité et une réalité. Donc, de jouer avec le corps, jouer avec augmenter par exemple la capacité du cerveau, c'est peut-être excitant. C'est le destin des hommes hein, de progresser, d'avancer, mais c'est un jeu dangereux, évidemment.
Il y a un homme augmenté dans Bug?
Il y a un homme, oui, il y a malheureusement le pauvre Amin. Il a fait partie de. Je pense qu'en 2040, on peut imaginer qu'il y aura déjà des gens qui auront eu recours à des implants, de choses différentes. Et lui, il fait partie de ces pionniers qui a visiblement un peu tiré sur la corde. Et lorsque ce bug arrive, tout d'un coup, son corps finit par se dérégler. Et heureusement, il finit.
Et donc, pour lui retrouver Hobbes, c'est vraiment une question de vie ou de mort, qu'il a absolument besoin de lui pour continuer.
Voilà. Et donc, c'est l'infiniment grand, c'est-à-dire que toute l'humanité a besoin de lui, de Hobbes, mais à travers un seul personnage, Amin, je fais passer cette tare là, qui est celle de l'excès d'augmentation du corps.
Vous-même, Anne Kividal, est-ce que vous êtes un geek? Est-ce que vous êtes un utilisateur de technologies nouvelles, de digital, de musique dématérialisée, d'albums, de bandes dessinées numériques, de livres numériques?
Alors non, livres numériques non, même si j'ai une tablette, j'aime bien avoir des bouquins stocker et puis pouvoir les consulter, c'est en voyage, c'est pratique. La bande dessinée, non, je considère que c'est pas tout à fait ça le but.
La musique au papier.
Oui, je suis attaché au papier, mais ça ne me gêne pas de voir une belle planche, un beau graphisme sur une tablette. Quand c'est en plus, c'est devenu très sophistiqué maintenant, une grande fidélité des couleurs. La musique dématérialisée, oui. Je suis vraiment là-dessus, avec un bon matériel, on peut vraiment écouter, c'est très confortable. Par exemple, le vinyle revient, j'en suis pas là. Bon, je pense que je reste pour l'instant sur le dématérialisé, mais par contre, tout ce qui est grande manipulation d'ordinateur, etc., je m'en sers uniquement que comme un outil pour travailler.
Voilà, ça c'était la question suivante. Est-ce que le numérique, vous l'utilisez? Cette fois-ci pas en tant que lecteur ou en tant qu'auditeur, mais en tant que créateur, en tant qu'auteur.
Je me sers de l'ordinateur pour faire le montage de mes histoires, mais tous les dessins sont faits à la main, comme on dit, sur papier avec des techniques traditionnelles, avec des outils traditionnels. Je n'ai pas essayé, pour l'instant, je n'ai pas envie d'essayer le travail directement sur palette graphique.
Alors, il y a des intelligences artificielles qui composent de la musique. On en a parlé dans cette émission il y a pas très longtemps. Il y en a qui écrivent des scénarios. Il y en a qui font de la peinture. Est-ce que une intelligence artificielle pourrait devenir un concurrent sérieux pour un scénariste, pour quelqu'un qui imagine des histoires?
Le joueur d'échecs génial, humain, était vraiment supplanté par la machine?
J'en ai pas l'impression.
Non plus. Non, je pense qu'on va pouvoir cohabiter, peut-être se servir d'une intelligence artificielle, d'algorithmes pour assembler des thématiques, pour dénouer ou pour nouer des fils narratifs. Hein, tout est possible. On peut s'amuser avec ça, hein, bien sûr.
Alors parlons un peu de technologie, de Kibidel, mais de technique. Vous disiez il y a un instant, j'utilise des outils très différents, des outils traditionnels. Alors là, il y a quoi là dans Bug? Il y a du pastel, il y a de l'acrylique, il y a des crayons de couleur aussi peut-être.
Pastel gras, donc un peu de noir ou coloré, il peut y en avoir. Acrylique, bien sûr, c'est la base. Il y a un peu de gouache.
Ah oui.
Je reviens à la gouache, mais uniquement par touche et surtout pour des mélanges. La palette peut-être des gouaches est plus large que celle de l'acrylique. Mais c'est des couches successives, donc il y a pas de, il y a des règles que je suis, mais c'est un dessin tant qu'il n'y a pas le déclic qui me dit c'est bon, il faut pas en faire trop, il faut pas faire le truc en
vous
trop.
Vous continuez à vous rebooter.
Ouais.
Mais donc il n'y a pas un petit détail scénaristique par exemple qui vous incite à utiliser plutôt tel ou tel outil? C'est vraiment plus dans la complémentarité que vous construisez vos cases.
Bien sûr, mais il peut arriver, alors ça c'est au niveau des couleurs, il peut arriver, par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais dans Partie de chasse, par exemple, les flashbacks, je les ai traités en sépia, avec des rehaussés de jaune, d'or, enfin bon, c'était des couleurs assez particulières. Là, effectivement, la technique et le graphisme viennent, pas au secours de la narration, mais viennent faire œuvre, acte narratif, clairement. Dans Bug, ça n'arrive pas vraiment, même si le flashback, par exemple, dans le vaisseau, lorsque les bugs attaquent les cosmonautes, c'est deux images verticales, simplement, mais qui sont que j'ai assombries volontairement pour créer un effet de mémoire un peu légèrement décalé. Mais bon, c'est quand même... la technique peut effectivement servir à narration.
Alors, vous étiez venu une première fois dans cette émission pour parler de l'exposition Graffiti in Progress numéro 1, et on a eu une seconde depuis. Le crayonné, ça reste la base de votre travail graphique, de toute façon, y compris sur un album de bande dessinée comme celui-ci.
Bien sûr, Bug, à l'origine, c'est des dessins au crayon. Le découpage narratif, tout se fait au crayon, et c'est sur ce crayonné que je peins. Donc, c'est un gain de temps pour moi. C'est vraiment un choix technique. J'évite l'ancrage, qui était devenu une étape fastidieuse et franchement emmerdante, clairement. Donc là, c'est vraiment très très excitant de passer sur un crayonné pour lui apporter de la vie, de la couleur et des masses, des matières.
Oui, très excitant, dites-vous. C'est-à-dire qu'il y a une forme de plaisir physique au dessin, parce que
il faut le garder,
tout le monde n'a pas le même ressenti hein, lorsqu'il dessine.
Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai fait sauter l'étape de l'ancrage, parce que c'est une étape qui bloquait tout, la main se demandait à n'importe quel dessinateur qui travaille à la plume ou au pinceau, à l'encre de Chine, chacun a sa main qui se crispe au moment de, comme on dit, mettre au propre. C'est qu'il y a des gens, en soi, le terme est absolument odieux, absurde pour l'art, on ne met pas au propre. Et là, justement, avec la peinture directe, on est dans l'énergie et dans le geste.
Storyboard, toujours?
Toujours, bien sûr, une mise en place. Mais le fait de travailler case par case me permet de modifier éventuellement l'ordre des cases, l'ordre que j'avais pu imaginer à un moment. C'est comme au cinéma, quand on monte un film, on se rend compte parfois qu'une séquence prise par un autre bout finit par être plus efficace. Et là, c'est un peu la même chose. Et cette liberté-là aussi est très... très excitante. Donc il faut garder cette excitation dans la peinture, dans le dessin, dans le montage, pour être bien dans ce qu'on raconte.
Oui, vous parlez de cinéma à l'instant avec Kibidel. C'est vrai que votre narration, elle est quand même extrêmement cinématographique. Il y a souvent des cliffhangers, hein, comme on dit. Bon, ça c'est assez classique en bande dessinée. Il y a des ellipses, il y a des twists. Vous laissez des petites choses comme ça, un peu en suspens. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça permet à la fois de relancer le suspense et de relancer le rythme, mais ça permet aussi au lecteur de se construire son propre scénario, sa propre histoire.
Oui.
Où est-ce que vous placez vos limites justement? Est-ce que vous vous dites, ah là, il faut que j'arrête, il faut précisément que le lecteur puisse continuer mon travail.
Mais là, je suis un peu sur un volcan. Là, j'ai l'impression que les ellipses que j'utilise sont très radicales, sont très 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 fortes. Hein. C'est des abîmes parfois.
C'est très dangereux pour le créateur, parce qu'on se dit, mais on peut en faire n'importe quoi de votre histoire.
Mais justement, je fais confiance au lecteur. Et pour l'instant, je suis très bien compris. Merci de tout ce que vous avez dit, me convient tout à fait, me comble même. Ce qui est très différent au cinéma. Au cinéma, vous pouvez pas avoir des ellipses comme ça. Vous êtes obligé d'allonger, d'étirer les personnages, leurs dialogues, installer des transformations, des ambiances, faire passer l'émotion. Sur un thème comme ça, de passer d'une scène intimiste entre un père et une fille, et ensuite de se retrouver derrière la lune avec une espèce de voile, une nébulosité bleue qui commence à approcher de la planète Terre. Je veux dire, on a un énorme écart là qui est quand même très étrange. Et donc je sais que ces ellipses sont vraiment abyssales par moment, mais effectivement la construction est très importante dans ces cas-là. Donc il y a un vrai travail de construction narrative.
Alors vous avez fait du cinéma, alors je ne sais pas si Bug va devenir un film de cinéma, une série télévisée, oui, hein, avec Dan Frank, qui est aussi un complice de longue date aussi. Vous avez publié Un siècle d'amour, toujours chez Casterman, ensemble en 2009.
Et Tico Moon, mon deuxième film, on l'a écrit ensemble.
Voilà, vous aviez déjà, dès le départ, l'idée d'en faire une adaptation télévisée de Bug ?
Moi, je n'ai pas le pouvoir de dire, voici un sujet pour... Non, moi, j'ai pensé, en faisant Bug, j'étais surpris, personnellement très surpris, de voir qu'il n'y avait aucune série... Quand on sait tout ce qui sort, quand on connaît le champ couvert par les fictions anglo-saxonnes dans le domaine des séries, on se dit mais comment se fait-il que personne n'ait parlé d'un grand bug de ce type-là? Il y a eu des séries qui parlent beaucoup de ce monde-là, Black Mirror et d'autres qui sont superbes d'ailleurs. Mais cette thématique-là, et donc en faisant l'album, je me disais moi tout simplement que c'était une thématique de série. Et puis c'est un peu par Dan que c'est passé. Les gens de la télévision ont dit mais c'est formidable ce truc-là, ton copain Bilal, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. C'est particulier.
Oui. Et pourtant, quand on feuillette dès le premier tome, on se dit, il y a effectivement l'idée d'une série derrière. Par exemple, il y a des pages de ce qu'on appelle des bancs-titres. C'est-à-dire que, c'est un terme de télé, hein, et c'est un terme de vidéo, quoi, le banc-titre. On voit effectivement des journaux, hein, donc de 2041, sous forme de blog ou sous forme de presse-papier. Pourquoi c'était important de nourrir aussi votre scénario de ces pages-là?
Alors ces pages-là, elles rythment et puis elles permettent de synthétiser le propos. Hein. Pour moi, donc en tant que scénariste, c'est important.
Avec beaucoup d'humour au passage, parfois du deuxième voire du troisième degré.
Oui, mais lorsque je fais apparaître des fautes d'orthographe absolument abominables, c'est alors non seulement ça me permet moi de baliser mon récit, donc ça me sert techniquement quasiment, mais ça permet aussi de dire le numérique a disparu, donc les correcteurs automatiques numériques ont disparu et l'être humain ne sait plus écrire. Voilà. Et c'est la vérité. Et c'est comme ça, c'est un constat. Donc c'est à la fois technique et c'est à la fois effectivement décalé et en l'occurrence assez drôle.
Alors il y aura, je sais pas s'il y aura ces bons titres aussi dans l'adaptation télé, vous avez déjà réfléchi à cette question-là?
Oui, bien sûr.
On va
s'en servir, bien
sûr. L'identité graphique sera la même?
Non. Non, c'est une série, c'est autre chose, c'est filmé. Je réaliserai pas moi cette série-là, je serai showrunner comme on dit, mais en tout cas on n'en est pas encore à l'aspect visuel. On est pour l'instant dans l'écriture, les arches, la première saison, 6 épisodes. Enfin, c'est un gros travail.
Mais vous lancez donc une série alors que vous n'avez pas encore terminé la série d'albums en bande dessinée. Les deux vont se nourrir?
Non. C'est trop tard. Maintenant, elles peuvent plus se nourrir. Elles sont séparées assez rapidement, heureusement.
Donc, on va aboutir à deux histoires différentes?
Absolument. Avec un point de départ commun, avec des personnages communs également, la plupart des personnages. Leurs destins vont... Voilà, ça va faire bouger les choses différemment, et heureusement.
Combien de livres, au final? Combien y aura-t-il de bugs?
Je pense que minimum, c'est 5.
C'est un minimum?
Oui, réellement, par rapport aux deux premiers qui sont une mise en place. Pour l'instant, tout ce qu'on a dit sur la mémoire de Hobbes, ses pouvoirs, on n'en a pas vu beaucoup d'effets hein, dans l'histoire. Il n'y a pas grand-chose.
Oui,
il a libéré sa fille en fermant les baies vitrées des mafieux ringards italiens et corses. Il n'a pas fait grand-chose d'autre, mais peut-être qu'il va redresser la Tour Eiffel, par exemple.
Ah d'accord, ça c'est un bon. Il ne va pas reconstruire Notre-Dame, ça c'est pas prévu.
Ça sera fait déjà.
Parce que pour que ce soit fait dans 5 ans,
ça sera déjà reconstruit.
Ça sera déjà reconstruit. Vous connaissez la fin de l'histoire déjà?
Oui. Oui, bien sûr.
Dès le départ, vous l'aviez en tête.
Ça faisait partie du package de départ. Il fallait connaître la fin d'une histoire comme ça. Si c'est une fin réaliste et qui repose sur des techniques ou des connaissances du numérique, je n'y allais pas dans l'histoire. Je n'y allais pas. Il fallait trouver quelque chose d'autre.
Merci beaucoup, Enki Bilal. Bug chez Casterman et pas de bug avec vous. Enfin, on espère. Alain Pilot, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Enki Bilal. Bonjour.
Bonjour. Bonsoir.
Divine, divin hasard qui m'a conduit ce soir à son regard. Divine,
Maud Lubeck sur RFI, un extrait du second volet de son diptyque après Toi non plus en 2017. Elle nous propose donc Divine, Alain.
Et pour le précédent, Jean-François, Maud Lubeck est arrivé dans le paysage musical français en 2012 et repéré par Dominique A, avait osé augmenter la durée de ses chansons, prendre le temps de développer des passages instrumentaux, sortir du texte pour celui-ci, que s'est-elle permise?
Je pense que j'ai osé être spontanée. C'est-à-dire que c'est un album que j'ai écrit, que j'ai composé en très très peu de temps, en 2 mois. Du coup, voilà, je l'ai vraiment fabriqué avec mon cœur. Du coup, j'ai osé être moi, peut-être.
Pas Maud Lubeck qui n'a pas les cheveux bleus sur son album Divine dans lequel nous venons de l'entendre, elle chante Changeons un peu de thème. À ce propos, quels sont ceux que Maud privilégie?
C'est souvent l'amour hein. J'en suis moi-même navrée. Non, j'aimerais bien passer à autre chose.
À quoi?
Le truc c'est que je ne sais pas. Oui, non, l'amour. Enfin, l'amour, ça veut pas dire grand-chose là comme ça, mais ça tourne toujours autour de ça. L'amour, la mort aussi. Avant de parler d'amour, je parlais beaucoup de mort, mais je me suis rendu compte que, moi, je me souviens par exemple mes premières scènes, on me disait souvent que ce que je chantais était très triste en fait. Et je crois que j'assumais pas du tout à cette époque cette tristesse. Donc j'ai essayé un petit peu d'aborder d'autres choses. Des choses plus joyeuses, sauf que finalement je ne les aborde pas toujours de façon très joyeuse non plus, mais voilà.
Ce qui fait qu'à ta vue, je me sens sans dessus, dessous, je ne tiens plus, suspendu à ce que tu es, ce que tu donnes, ce que tu as que n'a personne.
Maud Lubeck, amoureuse. Alors Alain, vous lui avez demandé à Maud Lubeck qu'est-ce qui lui a plu dans le fait d'évoquer ici la rencontre après avoir parlé précédemment de séparation. Voici sa réponse.
C'était de tenter d'explorer justement l'autre versant de l'amour. Enfin, moi, c'était vraiment le point de départ de cet album. C'est vraiment l'album d'avant. C'est-à-dire que, voilà, ayant parlé de cette séparation, j'avais envie d'explorer l'autre facette, en fait.
Vous parlez de cet album aussi comme de l'autofiction. Vous pouvez développer ?
L'autofiction, c'est vraiment... Je me sers de ce que je ressens comme matière. Sans non plus parler de moi, parce que c'est pas l'idée, ce serait pas très intéressant. C'est ça, me servir de cette matière, essayer d'en faire quelque chose.
Aimer autrement, autre part. Aller.
Par Maud Lubeck, qui il y a 3 ans partait peut-être un peu comme en BD d'un scénario pour écrire une chanson.
Et qu'en est-il aujourd'hui?
Pour Divine, c'est pareil. Hein. C'est, J'avais défini trois étapes. Je voulais qu'on parle de... Donc ça commence par une rencontre, donc divine, le premier regard, et que suive l'interrogation qui peut suivre une rencontre, pourquoi cette personne et pas une autre. Et en fait, ce que je voulais, la deuxième étape, c'était faire en sorte qu'à partir du moment où le cœur se mettait en route, donc ça c'est par un morceau qui s'appelle Cardiophonie, à partir du moment où le cœur se met en route, ça devient très compliqué. Les peurs se réveillent. Là suivent des chansons justement qui parlent un peu de tous ces tourments, toutes ces angoisses. Et je voulais terminer donc par ouvrir vers quelque chose de plus positif, même si ça reste toujours un peu paradoxal, puisque c'est une chanson qui s'appelle Dernier amour. Et je dis qu'en fait, je veux bien rentrer dans cette histoire si cet amour dure toujours. On sait bien que c'est peut-être possible, mais on ne peut pas non plus le décider à l'avance. Donc voilà, en tous les cas, j'avais scénarisé ça. Hein. Je tenais vraiment à toutes ces étapes, avec toujours ces références vers l'album plus ancien, l'album d'avant, le premier volet du diptyque, Toi non plus.
Et si tu es mon père, qui durera toujours.
Scénario, Maude Lubeck sur son album Divine. Merci Alain Pilot. Dans un instant, le journal. On se retrouve demain avec l'architecte Rudy Ricciotti. On parlera architecture, donc encore. On parlera de Notre-Dame une nouvelle fois, mais aussi de son livre L'exil de la beauté, paru aux éditions textuelles. C'est passionnant, truculent, provocateur, pas toujours politiquement correct. Donc, bref, ça décape et vous m'en direz des nouvelles.
Je te veux.